Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Elles sont nombreuses les diverses congrégations qui portent le nom de Saint-Joseph. Saint-Joseph, auquel le 8 décembre dernier, le pape François dédiait une année spéciale. À cette occasion et à l'approche du 19 mars, fête de Saint-Joseph, Immersion est partie à la rencontre de quelques-unes de ces congrégations qui portent son nom. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Guilhem-le-Désert, avec les carmélites de Saint-Joseph, tout autant filles de Thérèse d'Avila et de Saint-Jean de la Croix que de l'humble charpentier. Nous sommes accueillis par Sœur Catherine, prieure de la communauté.
Alors on est carmélite, pleinement. On est rattaché à l'ordre du Carmel. Nous sommes évidemment des filles de Thérèse et Jean de la Croix. Mais notre fondatrice, en 1872, a voulu vivre pleinement le Carmel, mais a aussi voulu vivre une insertion importante dans le monde. Elle est marquée par son frère, qui était engagé aux côtés d'Albert Demain dans le combat du social-christianisme. Alors, dans la région dans laquelle nous sommes, notre congrégation est née, c'est en Bourgogne, près de Mâcon. Et du coup, les châteaux engageaient des pauvres pour travailler le vignoble et les payaient mal, les payaient en pot de vin, etc. Et tout le mouvement d'Albert Demain et du social-christianisme s'est levé contre ça pour défendre les plus pauvres. Et donc, notre fondatrice, elle a voulu tenir à la fois la prière du Carmel, la spiritualité du Carmel, la vie fraternelle du Carmel et l'engagement social fort auprès des plus démunis.
Votre fondatrice, c'est ?
Léontine Jarre, c'est une femme qui n'est pas très connue, c'est pour ça que souvent on ne dit pas son nom. Voilà, Léontine Jarre qui est devenue Mère Marguerite Marie.
Les carmélites de Saint-Joseph, pourquoi Saint-Joseph alors que Marie est au cœur de la vie des carmélites ?
Eh, le pauvre Joseph, il est toujours oublié. Non, c'est simplement parce que Léontine Jarre, donc, quand elle a fondé, disait « Nous sommes de l'ordre, nous voulons être de l'ordre du Carmel ». Et si on remonte à Thérèse d'Avila, son premier Carmel s'appelle le Carmel Saint-José. Donc elle a repris le nom du Carmel Saint-Joseph de Thérèse d'Avila. D'accord. Voilà pourquoi Joseph. Mais Marie a toute sa place.
Donc une congrégation qui rapidement a essaimé avec ce double charisme à la fois d'être à la fois contemplative et apostolique et missionnaire.
Alors nous disons que nous sommes contemplatives. Le côté apostolique pour nous fait partie de la contemplation aussi. On est contemplatives dans le monde. On préfère cette dénomination-là parce que la contemplation n'est pas réservée au cloître. Et on n'a pas 2 heures de contemplation par jour et puis 4 heures de travail. La contemplation, c'est une manière de regarder le monde, d'essayer de regarder le monde et les gens que l'on côtoie avec le regard qu'aurait posé le Christ sur ce monde et le regard que Dieu pose sur ce monde. Donc moi, personnellement, quand je vais dans ma mission, Je contemple parfois le Christ, si je suis attentive et éveillée dans la situation qui m'est offerte à ce moment-là, dans le travail ou dans la rencontre.
On va aller frapper chez Gilles et Louisette. C'est vraiment des gens qu'on aime bien.
Il y a quelqu'un ? Gilles ? Louisette ? Oh, je te réveille, Gilles ! Ah ouais, je te réveille ! Pourquoi je te prends au saut du lit ? Comment tu vas ?
Impeccable.
Impeccable ?
Et vous ?
Depuis ton opération ?
Oui, je suis libérée de ça.
Je te présente Marie-Pierre, qui est journaliste.
Okay. Okay,
et on veut t'interviewer. C'est pour une radio chrétienne de Toulouse, d'accord. Mais t'es pas obligée de parler du bon Dieu.
Vous êtes un ancien du village ?
Non, non, c'était les Louisette qu'elle a acheté ici, avant même qu'on se connaisse, avec sa fille. On s'est connus, donc, dans la région parisienne. Et puis, c'est comme ça que j'ai atterri ici. Voilà, donc ça fait maintenant...
T'es arrivé en quelle année, ici ?
Que je dise pas de conneries, 2008. Même t'es arrivé après moi, d'ailleurs.
Oui, moi, je suis arrivé après toi. Je suis arrivé
village,
en
oui.
2010.
Alors, c'est vous qui avez accueilli Catherine, alors ?
Voilà, on l'a tirée dans notre guépier. Il a rien
bon,
à
et
dire.
Tu fais quoi, toi, pour les sœurs ?
Oh, ben, je n'arrête pas.
Je n'arrête pas.
Non. Non, mais je fais que des bricoles, quoi. Il n'y a pas de problème. Ils ont besoin de ci. Comme ce matin, ils ont fermé les portes un peu brutalement. Donc, ça a tordu les gonds. Alors, la porte, ça va falloir être cassoir à beauté et tout. Alors que c'était juste à démonter les gonds et redresser. Quoi.
Ah, tu ne l'as pas raboté. Tu as défait les gonds, redressé
voilà,
les gonds.
Voilà.
Ah, ben, Chantal doit être contente.
Elle est heureuse comme tout. Puis après, elle m'a fait régler tous les gonds des portes. Pour se faire admettre ici, c'est quand même un peu dur. Et ils ne vous écartent pas les bras comme ça.
Mais t'es un étranger, toi.
Ouais, ah, bah, oui. Ah oui, et puis je resterai toujours un étranger. Ouais. Hein. Ouais, ça, c'est clair. Hein.
Ça, il n'y a aucun problème. Si on n'est pas né ici, ou si on n'est pas vraiment de la région très proche, on est
ah,
un
ouais,
étranger.
Mais la communauté des sœurs.
Quand je pose la question aux gens, ils disent « mais vous, c'est différent ». Alors, je ne sais pas ce qui est différent, parce que chez nous, on est étrangères aussi, on est de toutes les couleurs. Et ça ne fait pas de problème.
Mais
si quelqu'un d'autre
vous faites
vient
partie du clergé,
comme ça,
c'est une autre. C'est vrai que.
On fait partie du clergé.
Voilà, donc il y a quand même, disons, la reconnaissance, déjà d'une. Et en plus, il y a quand même le respect. Quand même.
On est sacré, ouais, c'est
voilà,
ça.
Voilà,
intouchable.
Ouais.
Ah ouais, vas-y,
rajoute-en. Faut dire, c'est pas. je sais, parce que c'est exactement
ça. Je t'ai déjà expliqué, Gilles,
voilà.
Que le païen et le sacré,
ouais,
ça
ouais,
n'existe
ouais.
plus.
Voilà, c'est vrai. Moi, d'ailleurs, on m'appelle le païen.
Pour nous, voilà. Gilles et puis d'autres comme ça du village, c'est des gens importants qui sont pas des... Ah, t'es pas un pilier d'église, Gilles, hein.
Ah non.
Pas
non,
un pilier d'église, non. Mais pour nous, c'est vraiment des gens qui sont des témoins d'évangile sans
voilà.
le savoir.
Voilà, et c'est tout à fait ça, d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'il y a une très très belle fraternité, une belle amitié qui...
Ouais.
Et puis souvent, quand moi je suis admirative... Je te lance des fleurs, Gilles. Je suis souvent admirative de la disponibilité de plusieurs comme ça du village. On a besoin d'un coup de main, ils sont là.
Ah ouais, puis c'est vrai. Comme
et nous, ça nous renvoie à nous-mêmes, on n'est pas toujours disponible comme ça. Voilà, mais c'est vrai que nous, on veille à pas rester...
vous êtes assez ouverts.
...confinés chez nous et que les relations humaines sont, pour nous, font partie de notre vie de foi et de notre vie d'évangile. C'est premier même. Moi, je dis souvent, si ma foi et si l'évangile ne m'ouvrent pas à l'humain, je peux le remballer, elle ne sert à rien. Ce n'est pas la foi chrétienne, ce n'est pas la foi au Christ.
On parlait de mission. Chacune des sœurs a une mission bien particulière dans le monde, ici, dans le village, dans la région, de façon concrète. Comment ça se traduit ?
Alors concrètement, nos missions sont très diverses parce qu'on essaie de répondre aux besoins du temps et du lieu et en fonction de nos compétences aussi. Donc on fait un mélange de tout ça. Et selon les lieux de nos communautés, les besoins ne sont pas les mêmes, selon les sœurs présentes dans les communautés aussi. Donc nos missions varient énormément. Personnellement, j'ai été à Lyon pendant 14 ans et là, j'étais kiné à mi-temps à l'hôpital public auprès de personnes en éveil de coma. Depuis que je suis à Saint-Guilhem, ma mission est tout à fait différente. Je ne suis plus à l'hôpital, je ne suis plus kiné pour le moment, mais ça pourrait revenir plus tard, soit si je change de communauté, soit si la situation est différente à Saint-Guilhem. À Saint-Guilhem, on a une mission assez communautaire, parce qu'on est dans un village un peu loin de tout, et dans un village qui a, où il y a des besoins importants au niveau de l'accueil et d'une présence priante et spirituelle dans l'église, pour que cette église ne soit pas simplement de vieilles pierres qu'on vient visiter. C'était la demande du prêtre qui a fait appel à notre congrégation. Il voulait que son église puisse être ouverte tous les jours et qu'il y ait sans cesse de la prière dans cette église. Donc notre première mission, c'est une mission de prière et de vie spirituelle dans le lieu. Après, on a développé autour de ce thème de mission une maison d'accueil et attenant à cette maison d'accueil une librairie pour répondre justement à ce besoin de soif spirituelle de notre temps.
Lorsque vous étiez à l'hôpital ou toutes les autres sœurs, lorsqu'elles sont vraiment immergées, plongées dans le monde, il y a une grande part, je pense, de témoignages. Juste par votre présence, votre façon d'être, est-ce que vous voulez dire quelque chose de particulier au monde ?
Alors, je pense que l'oraison, la prière silencieuse longue, nous façonne un être d'écoute. On n'est pas capable d'écouter toujours, mais ça façonne en nous quelque chose, voilà, d'un être d'écoute. Et moi, mon désir, c'est d'être dans le monde comme je suis à l'oraison, c'est-à-dire dans cette attention amoureuse, alors au Christ. Dans mon travail de kiné, ça a été très fort et ça m'a été révélé par le chef kiné qui m'a engagée à l'époque. Il m'a dit « Mais vous passez beaucoup d'heures à prier, à parler à quelqu'un qui ne répond jamais. Je vous demande de travailler au service des comateux et vous allez faire la même chose avec eux que ce que vous faites avec votre bon Dieu. » Et j'ai trouvé ça assez génial parce qu'en fait, cet homme m'a révélé le cœur de ma prière et le cœur de mon travail. Et donc, effectivement, quand j'étais auprès d'un comateux en éveil de coma, je pouvais parfois passer une demi-heure, trois quarts d'heure à chercher la relation. C'est très simple, hein, je touche la main du malade et je lui dis « Si tu m'entends, essaie de bouger. » Alors la main ou le pied ou l'œil. Et puis il y a une ébauche de mouvement, je dis « Refais-le si tu m'as vraiment entendu. » Et il refait et la relation s'établit petit à petit. Donc c'était un travail finalement d'attention à cet éveil de la vie qui pouvait germer. Et dans la prière, c'est la même chose. Donc pour moi, c'était un travail magnifique sur ce plan-là. Après, il y a tout le reste du travail avec la personne comateuse, qui est un travail très physique, où il faut porter, lever la personne, la tourner, la mobiliser. Mais toujours dans cette attention, il faut faire la mécanique humaine, elle doit marcher, mais s'il n'y a pas de relation, c'est un corps sans relation, ça ne conduit à rien. Donc la relation, pour moi, restait le centre de mon travail.
Et est-ce qu'il vous est arrivé parfois d'être confronté à des questions vraiment très profondes, des questions d'éthique ? On parle beaucoup en ce moment des personnes en fin de vie. Vous avez été confronté à ces questions-là au sein d'une équipe médicale ? Vous en avez discuté entre vous ? Comment ça se passait ?
Alors, au sein d'un service d'éveil de coma, on y est confronté parce que tous les comateux ne s'éveillent pas. On n'est plus dans un système de réanimation avec des machines, donc les personnes ne sont plus assistées, mais elles sont nourries. Effectivement, ces questions sont là, sont posées. On se les est posées avec les médecins, les aides-soignantes, les infirmières, pour certaines personnes. en arrivant toujours à des décisions les plus justes possibles avec la famille. Voilà, il n'y a pas de réponse universelle, c'est du cas par cas et c'est chaque fois une réflexion extrêmement délicate parce que quand on travaille auprès de ces personnes et les familles qui sont auprès de ces personnes savent bien combien la vie est précaire, mais la vie est là quand même. Et donc, bon, de toute façon, on ne pose jamais un acte d'euthanasie, mais c'est vrai que parfois, on laisse partir quelqu'un en accompagnant le mieux possible, on arrête les traitements, ça arrive. Et là, la présence humaine, l'écoute des familles va être l'écoute. Alors pour moi, il y avait l'écoute des familles, il y avait aussi l'écoute des autres soignants qui était importante. Quand j'arrivais au travail, je prenais toujours du temps avec les infirmières, les aides-soignantes. C'est pas du temps qui est compté financièrement pour l'hôpital, mais c'est du temps extrêmement important pour que chacun puisse s'exprimer. Et puis, mes collègues savaient que j'étais religieuse, et donc quand il y avait des questions comme ça, mais même moins graves, volontiers ils se tournaient vers moi.
Je veux que tu fermes la porte là derrière ?
Non,
on va la laisser ouverte. Donc là, on va aller à l'église, on va passer par le village ?
Non, on va passer par le cloître. C'est notre entrée, c'est la petite porte qui va du bâtiment du XVIIe siècle au cloître du XIIe siècle. XIe
siècle. On est dans un environnement privilégié ici.
Alors voilà, c'est vraiment un cloître du XIe siècle. Dont il reste deux galeries et qui étaient très richement ornées, mais donc malheureusement toutes les sculptures sont parties. Il en reste quelques-unes au musée de l'abbaye qui est situé dans le cloître. De ce cloître, on a une vue magnifique vers les monts de Saint-Guilhem. Et si on se déplace un petit peu, on a une vue sur le château du Géant. Voilà, là au-dessus, qui sont des ruines de fortifications qui devaient protéger le village. Après, on entend aussi le bruissement du vivier, qui est alimenté par une source qui ne tarit jamais et dont on ignore
la source.
Hein, oui, la source.
L'origine, enfin.
Voilà, on ignore où est la source. Mais en tout cas, elle alimente tout le temps le bassin et le potager du monastère, qui est magnifique du coup, puisqu'il est, il peut être arrosé en permanence. Mmh. Voilà, dans le cloître, il y a des bâtiments qui se répondent. À l'ouest, on a le réfectoire des moines, qui est un magnifique vaisseau roman qui a été très très bien gardé. Mmh. En face, à l'est, il y a au rez-de-chaussée la salle capitulaire ou salle du chapitre, qui était le lieu où l'abbé lisait un chapitre de la règle de vie chaque jour à ses moines et le commentait. Mmh. Et à l'étage du chapitre, il y avait le dortoir. Et le dortoir est attenant au transept de l'église. Et il y avait une porte pour permettre aux frères âgés de suivre les offices liturgiques et l'Eucharistie sans descendre dans l'église. Mmh. Et puis donc, sur la partie nord du cloître, il y a l'église. Et sur la partie sud, il y avait les ateliers de travail pour... l'agriculture, la ferronnerie, je ne sais pas tout ce qu'ils faisaient ici. Voilà. Et au centre du cloître, il y a toujours un jardin qui évoque la ville nouvelle, la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire le paradis, pas perdu, mais le paradis qui est devant nous.
À retrouver, justement.
Voilà, on marche vers le paradis. Voilà, là on est à l'entrée de l'église.
Donc on est sur la place ici de Saint-Guilhem.
Voilà. Sur la place de Saint-Guilhem, on entre par une arche romane dans le narthex, qui à Saint-Guilhem s'appelle un gimel, Parce que souvent les narthex sont ouverts sur l'extérieur et ici on a une double porte, on a des portes jumelles, le mot jumelle peut venir de là. D'autres personnes qui ont fait des recherches disent que le mot jumelle peut venir aussi du terme gémissement. Bonjour. Gémissement des pèlerins qui arrivaient ici en ayant mal aux pieds, qui gémissaient, qui s'asseyaient sur les deux grandes banquettes et les moines leur soignaient les pieds. Donc ce lieu-là est le lieu vraiment de transition entre la place et l'église. Les gens qui entrent souvent par le fort ici, et voilà, c'est un temps pour rentrer dans l'église et on ne veut pas fermer l'église au moment où on prie, voilà. Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui viennent à l'office. Alors, nos vêpres sont belles. C'est un office qui commence dans le noir. On allume petit à petit. Et on voit qu'il y a des gens qui restent à l'office, qui ne sont pas chrétiens, et puis qui, après, viennent nous parler avec nous, nous dire combien c'était beau, combien ils ont été touchés. Voilà, il se passe quelque chose pour les gens. Donc, voilà, pour nous, c'est essentiel, même si ce n'est pas toujours facile. Ça arrive qu'on doive s'arrêter, demander le silence. Alors hier, on a eu des enfants qui faisaient « Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! » pendant toute leur raison. Donc, à un moment, je suis sortie. J'ai dit « Eh oh, ça suffit !» Puis, il y a des gens qui prient avec nous.
Comme Jeannette, une paroissienne.
Eh bien, la communauté, elle est là depuis 78. Et pour moi, c'est ma seconde famille. Parce que moi, j'aime très bien de venir à l'église, tout ça, et encore plus avec la communauté. Maintenant, elles font des offices merveilleux. Je n'en manque aucun. Et elles sont pour moi d'une gentillesse extraordinaire.
Et la présence dans le village des sœurs ?
Ça maintient dans l'église un respect, je ne sais pas comment dire, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui passent, mais en ayant cette communauté, ça maintient toujours cet esprit de foi, de chrétienne.
Bonjour, c'est moi-même.
C'est vous-même, voilà. D'accord.
Oh, mais vous êtes mouillés.
Ah, ben oui. Allez,
vous avez refusé. Vous voulez boire quelque chose ? Il y a de l'eau fraîche là-bas, je vais vous chercher à regarder.
Et chaque jour, du Carmel à la Maison Saint-Élie, un gîte d'étape tenu par les sœurs, en passant par le cloître, l'église, la place et les rues du village, les carmélites de Saint-Joseph n'ont de cesse de se mêler à la population et d'accueillir touristes, pèlerins ou retraitants. 17h, les pèlerins arrivent à la Maison Saint-Élie et c'est sœur Chantal qui les accueille.
On n'est pas des carmélites ordinaires.
Non, les carmélites, non, entre guillemets.
Qu'est-ce que c'est des carmélites ordinaires?
Pour moi, les carmélites... Par exemple, à Figeac, il y avait des carmélites derrière leur clôture. Après, où est-ce que je suis allé au Carmel? Oh, ben, Mazy, c'est déjà des carmélites modernes, je dirais. Mais je pense que vous êtes encore une, je dirais, à part, non?
Disons que
il n'y a pas de clôture.
Non, il n'y a pas de clôture. Nous sommes des carmélites en liberté.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme schisme, comme...
Ah non,
comme
c'est
abbé,
pas...
abbé de Rancé, chez vous.
Non, c'est pas un schisme, c'est une ouverture.
Non, faut pas prendre au premier degré mes propos.
Écoutez, on a eu une femme qui s'appelait Léontine Jarre, dans le Mâconnais, qui a fondé le Carmel Saint-Joseph. C'est-à-dire qu'elle voulait vivre de la spiritualité du Carmel,
oui.
Mais elle voulait aussi pouvoir aller être en contact avec le monde. Elle avait un frère qui était dans l'industrie, elle voulait absolument aider, continuer. Et donc, elle a trouvé le compromis, c'est de créer son Carmel avec... un temps de travail à l'extérieur, et après, toute la vie du Carmel. C'est-à-dire qu'on vit la spiritualité du Carmel, la vie hérémétique, l'oraison ensemble, matin, midi et soir, la prière, les repas. Et puis, en dehors de ça, on est chacune dans nos on ne dit plus cellules maintenant, ça fait un peu... maintenant, on dit chacune chez nous. Quoi. Dans sa chacunière, on dit. Et donc, voilà. Et sinon, il y a ce va-et-vient, toujours.
D'accord. Et alors là, cette mère...
Léontine Jarre, c'est notre fondatrice, voilà.
C'était quelle époque
1872.
Quand même. J'ai cru que c'était plus...
Oh, mais on est jeune, vous savez, par rapport à...
Non, mais par rapport à Saint-Bruno...
par rapport à Saint-Bruno...
Je dis ça parce que je suis de Grenoble, donc j'entends... je parle des Chartreux.
Alors nous, ce qui va caractériser davantage le Carmel Saint-Joseph, et c'est ça que je trouve super... c'est de répondre aux appels d'une époque. C'est ça. Il y a eu un appel ici pour la prière, assurer la prière dans l'église, parce que c'est un monument très visité. Et donc, le prêtre du lieu voulait une communauté qui prie.
C'est vrai que maintenant, les carmélites cloîtrés derrière la grille, là, à l'église, on les voit.
Mais je vais vous dire, c'est un appel différent.
Bravo, ça c'est une réponse positive.
Oui, parce que beaucoup de gens vous disent, vous c'est bien et tout, mais non, les carmélites cloîtrés, c'est bien aussi. Et Thérèse de Lisieux, vous connaissez Thérèse de Lisieux?
Oui.
Elle est devenue patronne des missions, elle n'a pas quitté son Carmel. Vous ne trouvez pas ça un peu...
C'est un voyage intérieur.
Eh, vous avez tout compris.
Mais enfin bon, c'est pas donné à tout le monde quand même.
Ben non, c'est donné à Thérèse. Et chacun en reçoit, en fin de compte. Bon, ben je vois que sur votre vélo, ça...
Il faut de la concentration quand même.
Je suis partie, moi. Vous savez que je faisais les exercices ignatiens sur mon vélo. Dans les côtes, surtout.
Il n'y en a pas beaucoup, à mon avis, qui le font.
Ben, écoutez...
Dans les côtes, ça vous aidait pas mal, je suppose.
Ben oui, j'avais mon livre, là, vous avez la carte. Moi, j'avais mon livre de Saint-Ignace, et voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici.
Vous avez discerné, alors.
Ben oui,
pour venir.
Voilà, ben, tout à fait.
Vous mais avez une vie, je dirais, civile. Prenez ça, entre guillemets.
Oui, tout à fait. Et c'est après une année sabbatique en vélo, c'est pour ça que je regarde votre vélo, que la question de la vie religieuse s'est posée. J'ai mis 7 ans avant de dire oui. Ah, mais je suis une de récure. Voilà. Et maintenant, vous savez, j'ai fait une pèlerine dans l'âme, et maintenant j'accueille des pèlerins.
Ouais.
Seigneur est bon. Allez, je vous accueille. Vous posez votre vélo.
Et c'est ainsi que chaque jour, pour qu'il soit bien plus qu'un haut lieu touristique, les carmélites de Saint-Joseph font de Saint-Guilhem pour tous ceux qui cherchent Dieu. Un lieu de rencontre, de partage et de réflexion. Un lieu de ressourcement. Une halte spirituelle.